Et comme chaque semaine, on va décrypter l'actualité du Pacifique avec Élodie Largenton. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors le dimanche 4 novembre 2008, c'est un jour qui s'annonce historique en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est ce jour-là qu'aura lieu le référendum d'autodétermination. La date a été fixée par le Congrès calédonien lundi dernier. Et même si cette date fait consensus, tous les élus n'ont pas voté pour. 14 élus issus de la droite non indépendantiste s'y sont opposés, dénonçant la repentance coloniale contenue, selon eux, dans l'exposé des motifs. Ce texte est largement inspiré du préambule de l'accord de Nouméa de 1998. Il rappelle que la colonisation portait en elle la négation de l'identité kanak, mais également que la Nouvelle-Calédonie s'est engagée dans un processus négocié pour tourner la page de la violence et du mépris, pour écrire ensemble les pages de paix, de solidarité et de prospérité. Même si ce texte ne convient pas à tout le monde, la date du référendum a donc été fixée, ce sera le 4 novembre. Il reste maintenant à déterminer la question qui sera posée aux citoyens. Ce sera le principal sujet de discussion du prochain comité des signataires de l'accord de Nouméa, qui va se tenir mardi, le 27 mars, à Matignon. Et ça promet aussi des débats tendus. En attendant, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi sur le corps électoral cette semaine. Adoption à la quasi-unanimité. On sait donc désormais qui pourra se prononcer le 4 novembre sur le référendum. Et alors que l'heure du choix approche en Calédonie, les partis politiques font campagne. Calédonie Ensemble a tenu un conseil politique il y a quelques jours. Et comme le souligne la première, ça a été l'occasion de rappeler les enjeux du référendum et de réaffirmer la position du parti, à savoir le maintien de la Calédonie dans la France. Mais comme le précise Philippe Gomez, député et membre de Calédonie Ensemble, rester dans la France, c'est essentiel, tout comme rester dans la paix. Il insiste sur le dialogue, qui est le meilleur moyen, selon lui, de parler entre Calédoniens, a fortiori, quand on n'a pas la même opinion politique, ce qui est le cas, puisque grosso modo, la moitié de la population est indépendantiste et l'autre moitié ne l'est pas. Fin de citation. De leur côté, les indépendantistes cherchent à rassurer. Le oui à l'indépendance donnera lieu à une période transitoire durant laquelle l'organisation de la future constitution sera posée par tous, assure le Palika, qui a tenu une journée d'information dans la commune de Païta. NC La Première ajoute que le Palika, en partenariat avec les autres partis indépendantistes, va organiser à travers tout le pays des réunions afin de mobiliser le plus d'électeurs possible en vue du référendum. L'autre sujet qui fait la une en Calédonie cette semaine, c'est l'affaire dite du tireur de Nakheti. Un homme de 56 ans a été condamné à un an de prison ferme pour avoir tiré sur un jeune homme qui faisait des dérapages en pleine nuit devant sa propriété au volant d'une voiture volée. Ça s'est passé au début du mois. Le jeune homme, qui est connu pour des faits de délinquance, a été sérieusement blessé à la jambe. Plus de 150 personnes avaient fait le déplacement au tribunal pour soutenir le prévenu. Et après l'annonce du jugement, une centaine de personnes ont campé pendant 2 jours devant le Haut Commissariat pour réclamer la libération de cet homme de Nakheti. Il faut noter aussi que les services publics sont restés fermés toute une journée à Canala en signe de soutien. 2 mines ont aussi fermé.
Et direction la Polynésie française maintenant, on est en pleine campagne politique à l'approche des élections territoriales.
Plus de 5000 personnes ont participé au congrès du parti au pouvoir, le Tapura, samedi dernier. 5000 personnes devant lesquelles le président Édouard Fritch a présenté son objectif, l'emporter dès le premier tour des territoriales fin avril. Il a présenté sa liste sur laquelle on retrouve beaucoup de maires. Selon le président du pays, les maires sont plus proches des habitants et donc plus à l'écoute des difficultés de la population. Face à lui, il y aura notamment un autre parti autonomiste, le Tawera de l'ancien président Gaston Flos. Pour séduire les électeurs, celui que l'on surnomme parfois le vieux lion a annoncé ses 12 actions d'urgence en cas de victoire au territorial. Il y a par exemple rendre les cantines gratuites pour les élèves de primaire, proposer un abonnement internet à $13 par mois et les SMS gratuits pour tout le monde. Des promesses que Gaston Flos assure pouvoir financer, mais ce n'est pas lui qui mènera la liste. La Cour de cassation a rendu sa décision jeudi. Gaston Flos reste inéligible jusqu'en 2019. Il doit donc désigner un autre représentant de son parti pour faire campagne. Et dans la semaine, son parti autonomiste a reçu le soutien du syndicaliste Angelo Frebo. C'est lui qui a mené la fronde contre la réforme des retraites, lancée puis abandonnée ordonnée par le président Édouard Fritsch, mais le leader syndical affirme qu'il n'a pas été téléguidé par le Taoira pour mener les grèves et les manifestations. Avec son jeu d'alliances et de promesses, Gaston Floss part confiant. Il se dit même sûr d'obtenir plus de voix que le parti indépendantiste Tavigny au premier tour des territoriales. Il faut dire que le Tavigny rencontre quelques difficultés en pleine campagne avec des dissensions. Une conseillère municipale de Faa'a, la commune du leader indépendantiste, et le vice-président de la Confédération syndicale des agents communaux ont ainsi annoncé la constitution d'une liste populaire pour les territoriales, une liste dissidente donc. Et c'est après cette échéance politique majeure en Polynésie que Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, viendra en visite pour saluer, dit-il, le travail très important des douaniers, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Plusieurs saisies de drogue de grande ampleur ont été réalisées au cours des derniers mois, comme cette saisie d'une tonne 7 de cocaïne début janvier. Et s'il salue l'action des douaniers polynésiens, le ministre estime aussi que des améliorations peuvent être apportées. Il recommande de renforcer la coopération avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Et mauvaise nouvelle maintenant pour les habitants de Wallis et Futuna. La mise en service du haut débit est reportée.
L'internet à très haut débit devait arriver dans l'archipel le 19 mars, mais le service des postes et télécommunications parle désormais du mois de mai, sans donner de date précise. La chaîne La Première croit savoir qu'un délai supplémentaire a été demandé par les Samoa pour se rallier aux États-Unis. 5 mois après son installation, le câble Tui Samoa n'est donc toujours pas opérationnel. On reste à Wallis et Futuna où la campagne pour les législatives partielles est lancée. Les candidats avaient jusqu'à vendredi pour se déclarer auprès de l'administration supérieure. Rappelons que cette législative partielle est organisée à la suite de l'invalidation de l'élection de Napolé Poloutélé au mandat de député. Le Conseil constitutionnel a relevé des irrégularités dans les procédures de vote. Le premier tour de cette législative partielle aura lieu le 15 avril. En attendant, des élus de l'Assemblée de Wallis et Futuna se sont rendus en mission en Nouvelle-Calédonie où ils ont notamment rencontré le président du gouvernement calédonien. Il a principalement été question du renouvellement des accords particuliers qui lient les deux territoires français. Et puis le gouvernement calédonien verse 1,9 million de dollars australiens au Vanuatu pour la construction de son université nationale. L'établissement est un projet de longue date du Vanuatu. Il sera bilingue, anglais et français, et permettra aux étudiants vanuatais de se former sur place, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, comme le rapporte NC La Première. Les fonds versés par le gouvernement calédonien représentent 24% du budget total. Ils correspondent au financement de la première tranche des travaux de construction. Il faut noter que l'AFD, l'Agence française de développement, finance aussi la construction de l'université à hauteur, elle, de 60%. L'université du Vanuatu doit entrer en service à la rentrée 2020.
Voilà, merci Elodie d'avoir décrypté l'actu du Pacifique pour nous cette semaine.
Merci, à la semaine prochaine.